Chapitre 18. Donc c'était un empoisonnement fortuit, tel que Turlure le supposait, quand ses expériences lui révélaient le ver de Chyle, et non un empoisonnement criminel. Le mari n'administrait pas de l'arsenic à sa femme, la femme à son mari, ni l'un ni l'autre ne devait être soupçonné. Mais leur innocence dans ce cas ne prouvait nullement qu'ils ne fussent pour rien dans la mort de Courteheuse. Au contraire, les soupçons dont ils se poursuivaient en se voyant indisposés étaient la preuve même, la plus forte et la plus criante, de leur culpabilité. C'était de leur complicité que naissaient leurs accusations. S'ils avaient peur l'un de l'autre, c'est qu'ils se connaissaient. Quelle école, quel ridicule, quelle responsabilité s'il eût continué ses recherches sur la piste d'un nouvel empoisonnement. Mais de ce que celle-là devait être abandonnée, il n'en résultait pas que celle qui se rapportait au premier devait l'être aussi. Pour être plus difficile maintenant, elle n'était cependant pas impossible, et telle qu'il dut reconnaître à l'avance qu'elle n'aboutirait à rien. Un concours de circonstances lui avait appris qu'un crime avait été commis dans sa commune. C'était son devoir d'honnête homme et de premier magistrat de cette commune de livrer ses auteurs à la justice, en accumulant contre eux tant de faits probants, tant d'indices certains, tant de preuves écrasantes, que leur culpabilité éclatât aux yeux de tous, en même temps qu'éclaterait aussi la sagacité de celui qui avait repêché ce crime, déjà englouti dans l'oubli. Quel malheur que l'empoisonnement par l'arsénite de soude ne pût pas être pris pour point de départ. Comme on remonterait facilement dans le passé, comme tout s'enchaînerait. Mais s'il fallait renoncer à cette marche qu'il avait entrevue tout d'abord, ne pouvait-on pas cependant se servir de cet empoisonnement comme moyen d'action sur ceux qui s'en croyaient les victimes, c'est-à-dire sur le mari et la femme, et en commençant par celle-ci, puisqu'une heureuse chance la lui livrait seule. Il passa la nuit à bâtir son plan, agité, enfiévré comme il ne l'avait jamais été, effrayé de la responsabilité qu'il assumait en voulant agir seul, mais résolu cependant à ne recourir à ces messieurs du parquet que lorsque l'action serait engagée de telle sorte qu'on ne pût ni l'arrêter, ni lui donner une autre direction que celle qu'il lui aurait imprimée. Le lendemain, dès le matin, il envoyait un mot à Madame Lavaupallière pour la prier de le recevoir dans la journée, et à 2 heures, il entrait dans le salon où elle l'attendait, assez surprise de cette visite. Que voulait-il ? Quand elle le vit, grave, recueilli, presque sombre, elle se répéta cette question avec une certaine inquiétude, mais sans s'effrayer cependant, car elle ne pensait pas du tout à Courteheuse et s'imaginait plutôt que c'était de Médéric qui voulait l'entretenir, ce qui d'ailleurs ne pouvait lui être que parfaitement désagréable. De quoi se mêler cet imbécile ? Et elle attacha sur lui un regard qui n'exprimait pas précisément la douceur. « Je vois, dit-il après s'être assis en face d'elle de façon à la voir bien dans les yeux, que ma visite vous surprend. En effet, mais ce qui me surprend encore plus, c'est la gravité de votre abord. Que se passe-t-il donc ? Vous m'aidez singulièrement en m'adressant cette question, car en vérité je suis dans le plus grand trouble et si profondément ému que je ne suis maître ni de mes idées, ni de mes paroles, ni de l'ordre que je dois leur donner. » Ému, il était en effet, mais pas au point de n'être maître ni de ses idées, ni de ses paroles. Et s'il avouait son trouble et son agitation, c'est qu'il jugeait habile de laisser croire à cette femme dangereuse qu'elle aurait facilement raison de lui et qu'elle n'avait pas à se tenir sur ses gardes. En un mot, madame, voici ce dont il s'agit. Je viens d'obtenir la preuve, indéniable, matérielle, foudroyante. Il fit une pause et, en reprenant, il détacha ses mots de manière à les faire attendre. Qu'un empoisonnement, par l'arsenic, avait eu lieu dans cette maison. Le coup fut si habilement, si fortement asséné, qu'il arracha un cri étouffé à Hortense. Et comme il tenait ses yeux attachés sur elle, il la vit pâlir et donner tous les signes caractéristiques de la frayeur. Les yeux et la bouche s'étaient largement ouverts, des rides transversales plissaient ses joues et descendaient même jusqu'à son cou. On eût pris d'elle une photographie instantanée en ce moment, que personne ne se serait mépris sur son expression, celle de l'angoisse et de la terreur. Si Turlure avait eu besoin d'une confirmation de ses soupçons, il eût trouvé dans cette physionomie bouleversée le plus complet des aveux. Mais, en se voyant observée, elle eut la force de se remettre, et tout de suite, avec l'audace qui était sa nature même, de marcher au danger. « Vous croyez que cet empoisonnement est criminel ? » dit-elle.
« Je le crois. »
« Vous accusez quelqu'un ? »
« Oui. »
« Les apparences peuvent vous égarer. »
« J'ai retrouvé l'arsenic. »
« C'est impossible. »
« Rien n'est impossible à la science, madame. Il n'y aurait pas de crime si ceux qui veulent les commettre savaient à l'avance quel est son pouvoir. Et d'ailleurs, pourquoi cela serait-il impossible ?»
Elle ne répondit pas, sentant combien pouvait être dangereux le terrain sur lequel il paraissait vouloir l'entraîner. Après l'avoir foudroyée par la brusquerie et la violence d'une attaque qui devait la troubler assez pour qu'elle n'eût pas tous ses moyens de défense, il jugea que le moment était venu de porter son effort d'un autre côté, de façon à l'envelopper. Quand elle lui avait dit « Vous accusez quelqu'un », c'était d'elle qu'elle parlait, exactement comme si elle disait « Vous m'accusez ». Et par cette question, elle s'était livrée elle-même ce qu'elle avait senti. Maintenant, il trouvait habile de lui entrouvrir une voie dans laquelle elle devait se précipiter pour échapper à cette première menace. Bien qu'il fût attentif à suivre les mouvements que trahissait la physionomie d'Hortense, il n'observait pas que son visage. Ce fut ainsi qu'à plusieurs reprises, il remarqua qu'elle toussotait, comme on le fait pour s'éclaircir la voie, et que, machinalement, sans en avoir conscience, elle se grattait légèrement entre les doigts, comme si elle éprouvait là des démangeaisons. Ce fut un trait de lumière qu'il voulut utiliser aussitôt. S'il avait apporté ses armes fourbies dans sa nuit sans sommeil, il n'était pas homme à ne pas se servir de celles que le hasard lui mettait aux mains. « Je vous ai dit tout à l'heure, reprit-il, que j'avais retrouvé l'arsenic qui a provoqué les empoisonnements que je vous dénonçais. » Moins troublée, elle eut remarqué qu'il parlait maintenant d'empoisonnement, et non plus d'un seul, mais elle n'y fit pas attention. « Maintenant, je puis vous les montrer, ou tout au moins vous montrer leurs effets immédiats. » Elle le regarda, comme si elle s'attendait à le voir tirer de sa poche un flacon ou un papier qui contiendrait cet arsenic. « Ce n'est pas sur moi qu'il est. »«
Je ne comprends pas. »«
C'est sur vous, madame. »
« Vous croyez que je suis empoisonnée ?»«
Vous l'êtes. »«
Ah, mon Dieu ! Mon Dieu !»
Ces deux exclamations ne furent pas jetées sur le même ton. Dans la première, il y avait de l'effroi, dans la seconde, du soulagement. Et Turlure n'eut pas besoin de réfléchir pour s'expliquer cette contradiction. D'un côté, elle s'épouvantait de se savoir empoisonnée. De l'autre, elle respirait de voir que les soupçons dont elle s'était crue tout d'abord chargée se portaient maintenant sur un autre. « Ne craignez rien, madame, » dit-il en reprenant. « Votre vie n'est plus en danger, puisque nous savons maintenant comment elle est menacée, par quoi. Comme nous saurons bientôt, si vous me prêtez votre concours, par qui ?» Elle le regarda, mais sans deviner sur son visage jusqu'où il voulait aller.
« Je connaîtrai donc celui qui veut m'empoisonner ?»«
Vous le connaissez, et si vous ne criez pas son nom, c'est qu'un sentiment respectable et touchant met le sceau du sacrifice sur vos lèvres frémissantes. » Cela fut dit avec un accent de commisération qui devait inspirer la confiance, puis il continua. « Je vous ai dit que je pouvais vous montrer sur vous-même les effets produits par l'arsenic que vous avez absorbé. C'est ce que je vais faire. » « Depuis que nous nous entretenons, vous avez tout sauté 5 fois. Je les ai comptés, comme si vous vouliez expulser une sécrétion bronchique qui voilerait votre voix. Cette irritation de vos bronches est un effet de l'arsenic. Dans le même espace de temps, vous avez légèrement frotté à plusieurs reprises l'entre-deux de vos doigts. Et ce prurite est un effet aussi de l'arsenic. » Après une courte pause, pour jouir de l'effarement qu'il produisait, il poursuivit « « Voyez, voyez, madame, quelles sont les ressources de la science et combien sont naïfs les criminels qui s'imaginent que leur perversité sera plus forte qu'elle. Cependant, j'avoue que ces remarques auraient pu m'échapper si mon attention n'avait pas été éveillée par des précédents. »
Par la prononciation, il appuya le pluriel, de façon à ce qu'elle en fût frappée. Puis, comme si ce n'était pas assez, il précisa « J'aborde le premier. Il y a quelque temps, votre femme de chambre vint me demander un remède pour faire passer des vomissements et divers malaises dont elle se plaignait. Ces malaises groupés donnaient les symptômes d'une intoxication arsénicale. C'est chose grave que de conclure à un empoisonnement. Et alors même que tous les symptômes de l'ordre médical se trouvent réunis pour le faire admettre, il faut que des circonstances de notre ordre viennent les appuyer. Ces circonstances existaient pour moi. Et comme, dans l'espèce, je n'étais pas seulement pharmacien, mais encore magistrat, au terme des articles 49 et 50 du Code d'instruction criminelle, qui, pour certains cas déterminés, confèrent au maire des pouvoirs spéciaux, enfin, comme d'autre part, je pouvais sauver des existences menacées, je devais donner tous mes soins à l'instruction de cette affaire. Je recommandais à votre femme de chambre de m'apporter les matières qu'elle vomirait, et l'analyse de ces matières me révéla la présence d'un composé d'arsenic. Interrogée, votre femme de chambre m'a dit que vous aviez éprouvé aussi des vomissements. Est-ce vrai ? Elle hésita un court instant. C'est-à-dire... En avez-vous ou n'en avez-vous pas éprouvé ? Vous sentez de quelle importance capitale est cette question, à laquelle je vous prie de répondre par oui ou par non. J'en ai éprouvé, mais... Il lui coupa la parole avec une autorité qu'elle ne lui connaissait pas. N'interprétez pas, dit-il, n'expliquez pas. Nous ne sommes pas au bout de notre entretien, car c'est en remontant dans le passé que je compte voir clair dans le présent. Cette menace de remonter dans le passé était un des effets sur lesquels Turlure comptait le plus pour jeter le trouble dans l'esprit de Madame la Vaupalière. En l'examinant, il eut la satisfaction de constater qu'il ne s'était pas trompé, alors il continua vivement. Ayant retrouvé l'arsenic dans les vomissements de cette fille attachée à votre service, je devais rechercher, s'il y a crime, contre qui il est dirigé, quel est le coupable. Et c'est dans ce but que je vous ai demandé cet entretien. Dans votre maison, deux personnes ont présenté les symptômes d'une intoxication arsenicale. Vous, madame, et votre femme de chambre. Monsieur la Vaupalière a éprouvé aussi des vomissements. Je vous demande la permission de laisser monsieur la Vaupalière de côté pour le moment. Nous nous occuperons de lui tout à l'heure. Voyez-vous quelqu'un qui ait intérêt à empoisonner votre femme de chambre? Y a-t-il des raisons pour lesquelles on voudrait la faire disparaître? Non, assurément. J'ai fait une enquête à ce sujet et je pense absolument contre vous. Donc l'empoisonnement n'était pas dirigé contre cette fille et pour elle, il a été fortuit. Sans doute, vous vous demandez comment elle a pu être malade alors qu'elle n'était pas visée. J'avoue que je n'ai pas de réponse précise à cette question. Mais il y a cela de terrible dans l'empoisonnement qu'il fait bien souvent des victimes à côté. Ainsi, cette fille a pu boire un liquide qui ne devait pas être à son usage. De même, elle a pu absorber par la respiration ou autrement des poussières ou des vapeurs arsenicales dans une autre chambre que la sienne, la vôtre par exemple, si c'est contre vous que le crime était dirigé. Et puisque nous écartons cette fille, il faut bien reconnaître que c'est contre vous, l'évidence le crie. Je vais d'ailleurs vous le démontrer en recherchant dans quel intérêt et pour quelle raison on veut vous faire disparaître ou tout au moins, en vous effrayant, vous amener à un divorce. Après la menace du passé, cette porte du divorce entrouverte était encore un effet que Turlure avait préparé. En saisissant l'éclair qui traversa le regard de Madame la Vaupalière, il crut que le résultat obtenu était satisfaisant. Évidemment, ce mot répondait à une idée déjà admise ou à une espérance. « C'est maintenant, dit-il en reprenant, que je suis obligé de faire un retour dans le passé et d'aborder une série de faits d'une extrême délicatesse dont vous ne sentirez toute l'importance que lorsqu'ils formeront un ensemble. Assurément, vous n'avez pas oublié une prétendue tentative de vol à la suite de laquelle M. Courteheuse fit fermer sa maison au moyen de l'électricité. » Mais ce que vous ne vous rappelez pas sans doute, c'est qu'un hasard m'ayant amené à l'étude ce jour-là, qui était un vendredi, je relevais l'empreinte que celui qu'on supposait être un voleur avait laissée dans la terre fraîche d'une plate-bande. Ce relevé, je l'ai conservé, je l'ai même apporté, et, si vous le permettez, il va me servir à une constatation qui en dira beaucoup plus que toutes les paroles et m'épargnera des explications aussi difficiles que pénibles. » Il s'était levé et, allant à la cheminée, il avait poussé le bouton de la sonnerie, puis, tirant de sa poche une grande feuille de papier soigneusement pliée, il l'étala sur la table. « Voulez-vous nous apporter une paire de chaussures de M. Lavaupallière ? » dit-il à la femme de chambre qui entrait. Quand elle eut fermé la porte, il revint à Hortense. « Vous allez voir, » dit-il. Et comme elle ne répondait pas, un silence s'établit, pour elle vertigineux. Enfin, la femme de chambre revint. Il alla au-devant d'elle, lui prit les chaussures, et d'un signe la renvoya. Puis, quand elle fut sortie, il posa un des souliers sur la feuille de papier et il s'adapta exactement sur le trait qui était tracé à l'encre d'après le découpage fait sur l'empreinte. « Vous voyez, dit-il, quel pied avait fait cette empreinte, comme vous comprenez les conclusions qui ressortent de cette constatation. Une situation et une date certaines. Je n'insisterai donc pas et passerai tout de suite à un autre point. » Au printemps suivant, un dimanche, me trouvant à Rouen chez mon confrère Desmazuriers, pharmacien, rue Grandpont, je surpris M. Lavaupallière en train d'acheter un compte-gouttes. Il se troubla quand il me vit, et plus encore en répondant à quelques questions. Déjà, M. Courteheuse était malade. Son état s'aggrava. Ce fut alors que je vous fis cette visite que vous n'avez certainement pas oubliée. Aujourd'hui, je dois vous faire part de mes soupçons que je vous cachais à ce moment. Je croyais M. Courteheuse empoisonné par l'arsenic et je voulais voir si le docteur Annivel ne se laissait pas aveugler par des idées préconçues. M. Courteheuse était mon ami. D'autre part, ma qualité de maire de cette commune m'imposait certains devoirs. Mon intervention n'avait donc rien que de légitime. Quand je vis M. Courteheuse, ce qui était doute devint certitude. L'intoxication arsénicale sautait aux yeux. Si évidente qu'elle fût, il fallait cependant autre chose qu'un diagnostic. Je vous demandais donc un mouchoir pour faire l'analyse du sang. Ma position ne me permettait pas d'appeler l'attention du docteur Annivel sur cette maladie, ni d'engager une discussion avec lui. D'une analyse sérieuse jaillirait la lumière. Jusque-là, elle n'avait guère répondu. Tout d'abord parce qu'elle était foudroyée. Puis, ensuite, parce qu'elle craignait d'autant plus de s'aventurer sur un terrain dangereux qu'elle voyait mieux combien était serré cet interrogatoire qui, à son début, paraissait incohérent. Mais elle crut pouvoir prendre la parole. « Je vous ai envoyé le mouchoir que vous me demandiez, il me semble. »« Parfaitement. Et ce qui prouve la parfaite innocence avec laquelle vous avez agi, c'est que vous ne vous êtes pas inquiété de savoir si ce mouchoir passerait directement de vos mains dans les miennes. Je ne pouvais pas vous faire cette recommandation, et vous, de votre côté, vous ne pouviez pas vous imaginer qu'il y aurait substitution de mouchoir. Cette substitution a eu lieu, et celui que j'ai reçu n'était pas celui dans lequel M. Courteheuse avait saigné. C'est un grand malheur, car nous aurions sans doute sauvé ce pauvre M. Courteheuse, et nous ne serions pas dans la terrible situation où nous nous trouvons. » Bien que mes recherches pour le sang ne m'eussent donné que des résultats négatifs, je ne pus pas renoncer à l'idée d'une intoxication arsénicale et j'envoyai Isidore pour qu'il coupât les cheveux à M. Courteheuse et m'en apporta une mèche que j'analyserai. Mais de même qu'il y avait eu une substitution pour le mouchoir, il y en eut une nouvelle pour les cheveux. Je ne comprends pas. Au lieu d'analyser les cheveux de M. Courteheuse, j'analysais ceux de M. Lavaupallière, qui naturellement ne contenaient pas d'arsenic. Et comme j'ignorais alors ces substitutions, je dus abandonner mes recherches. Le poison acheva son œuvre, M. Courteheuse mourut, tué par l'arsenic. « Mais c'est horrible, monstrueux, ce que vous dites là » s'écria-t-elle. Ajoutez que c'est incroyable, inimaginable. Cependant, c'est la vérité, si terrible qu'elle soit. M. Lavaupallière a empoisonné M. Courteheuse. J'ai les preuves de l'accusation que je porte contre lui. Mais celui que vous accusez est mon mari, monsieur. Pour votre malheur, madame, c'est pour devenir votre mari qu'il s'est rendu coupable de ce crime et aussi pour se créer une situation que la médiocrité de ses ressources lui interdisait. Vous parlez de preuves. Je comprends votre protestation et tout de suite j'y réponds. Dernièrement, à l'enterrement d'un de nos conseillers municipaux, j'ai pu recueillir sur M. la Vaupalière un de ses cheveux, et ce cheveu, examiné au microscope, s'est trouvé semblable à ceux qu'Isidore m'avait rapporté et dont j'avais conservé une mèche. N'est-ce pas là l'aveu le plus complet de la culpabilité de celui qui a opéré cette substitution? C'est son habileté même, ses précautions qui le condamnent. Décidément, le groupe de fête dont il avait parlé en commençant était écrasant. Elle aurait eu besoin de réflexion pour répondre sans tomber dans des imprudences, et il fallait qu'effrayée, effarée, stupéfaite, elle le suivît de surprise en surprise. Cependant, elle devait répondre quelque chose. « Tout cela est si effroyable que vous me voyez anéanti, jeté hors de moi, affolé. Je vous sais incapable de parler à la légère, et cependant, je ne puis vous suivre dans ces accusations contre lesquelles mon cœur comme mon esprit protestent. Je serais empoisonné, M. Courteheuse serait mort victime d'un crime, M. la Vaupalière aurait employé les moyens que vous dites. Non, monsieur, je ne puis vous croire, c'est impossible. » Moi aussi, j'ai protesté quand j'ai commencé à soupçonner la vérité. Mais que peuvent le cœur, l'esprit, la conscience contre les faits? Et ils sont là. Je vous les ai montrés, vous les voyez. Mais enfin, monsieur, qu'attendez-vous de moi? Que puis-je? Que me demandez-vous? Ce que je vous demande, votre concours pour faire éclater la vérité. Ce que vous pouvez pour vous sauver. Me sauver? De quoi? N'oubliez pas l'empreinte. Et pensez aux conséquences qu'on en peut tirer. Que m'importe? Elles peuvent aller jusqu'à une accusation de complicité. Mon Dieu! Ce que vous devez à la mémoire de votre premier mari, ce que vous vous devez à vous-même, vous oblige à n'écouter aucune autre considération, si cruelle, si atroce que soit votre situation. Mais que voulez-vous? La vérité, c'est-à-dire ce que vous savez, tout ce que vous savez. Ce qu'il avait dit jusque-là n'était qu'une longue préparation. Ce qu'il voulait, ce qu'il cherchait, c'était une confession, confession arrangée par le souci de la défense personnelle, bien entendu, mais qui, par cela même, chargea d'autant plus lourdement la Vaupalière. Quel triomphe pour lui s'il apportait à ces messieurs du parquet l'aveu d'un des deux complices qui supprimait les hésitations auxquelles il s'attendait. Mais il supposait moins de résistance qu'il n'y en avait eu en elle, moins de force, moins de ressort. « Que voulez-vous que je vous dise ? » s'écria-t-elle en se tordant les mains. « Je ne sais rien. C'est vous qui me révélez l'horreur de ma situation. » Si vous n'avez rien su, est-ce que vous vous seriez détaché ? Est-ce que vous vous seriez séparé de ce second mari, épousé par amour ? Pensez que cette séparation peut être votre sauvegarde, si vous voulez la compléter. » Elle hésita, il crut qu'il allait l'emporter. Mais elle ne se sentait pas assez maîtresse de sa pensée et de sa parole pour rien risquer. Il fallait qu'elle réfléchît, qu'elle se préparât. Un mot lâché pouvait la perdre. Il insista, mais précisément parce qu'il était obligé de se répéter, il produisit moins d'effet sur elle. Elle ne savait rien. D'ailleurs, dans son état de trouble et d'affolement, elle était incapable de rassembler ses idées, de rappeler ses souvenirs. Elle avait besoin d'être seule, de se reconnaître, de se consulter, et elle le priait de revenir le lendemain, ou, s'il trouvait que c'était trop loin, dans la soirée. Mais il ne consentit pas à lui accorder ce délai. « De ce pas, je vais à Rouen faire ma déclaration au parquet, et je n'en reviendrai qu'avec les magistrats. Vous leur donnerez vos explications. » « Vous ne ferez pas cela !» Malgré les supplications dont elle le pressa, il se montra inflexible. « Un retard serait une faute grave dont je ne peux pas prendre la responsabilité. Sans doute, il n'y a pas à craindre que vous avertissiez M. la Vaupalière, car le dépôt d'une dépêche vous compromettrait. Et d'ailleurs, vous ne savez pas où il est, puisqu'après avoir dit qu'il allait à Paris, il est parti pour Dieppe, ainsi que je l'ai appris à la gare. D'autre part, il n'y a pas à craindre non plus que vous vous soustrayiez à cet interrogatoire par la fuite, car ce serait un aveu de complicité. Cependant, si vous ne m'accordez pas le concours que je vous demande, je ne peux pas différer d'aller à Rouen. Mais je ne peux rien vous dire, puisque je ne trouve rien en ce moment. Vous voyez bien que j'ai la tête perdue. »
Elle continua dans cette voie, mais inutilement. À la fin, de guerre lasse, il se leva, malgré les efforts qu'elle faisait pour le retenir.
« Je suis certain que, quand je reviendrai avec monsieur le juge d'instruction, la réflexion vous aura montré que la situation, votre situation, doit être envisagée à un point de vue différent. »
Sur ce mot, il la quitta. Sans doute, il n'avait pas obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire un aveu qu'il aurait été fier d'offrir à ces messieurs du parquet. Mais il avait préparé le terrain. Elle allait charger la Vaupallière, qui plus tard la chargerait à son tour, et de ce choc jaillirait la lumière, ce qu'il voulait en somme. À la vérité, il y perdrait peut-être le ruban rouge qu'il avait un moment entrevu, mais il y avait beau jour qu'il était résigné à porter toute sa vie le ruban violet, le demi-deuil des grandes espérances, comme il disait avec un sourire mélancolique.